Nous sommes en 2013 après Jésus-Christ. Toute la France est occupée par des podcasts high-tech. Toutes ? Non, car un podcast peuplé d'affranchis résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour Apollinaire de Caninette, M. la Maudite, Péremptoire, Randall Flagg et S-Ferret. Leur force vient des Telex, ces news pas fraîches qui...
Ouais, sont pas frais les Telex ?
Eh ben j'ai rien demandé moi.
Queen Novi. Des têtes antiques, mais pas en top. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 25 de Quid Novi, 25e épisode, un peu la Catherinette des épisodes, non. Je sais pas vraiment, mais c'est pas grave. Pour m'accompagner ce soir, je reçois la plus démoniaque des podcasteuses, son côté sombre vous abreuve de bonnes choses interdites, et elle a sa propre rubrique chez nous, c'est Calinette.
Bonsoir et bienvenue.
Alors comment ça va dans ton petit côté poisson ce soir?
Bah écoute, ça va, comme un poisson dans l'eau.
Ah, c'est mignon, c'est bizarre. C'est trop. mais je reçois aussi un invité, il anime Panem une fois par an avec moi, on se demande toujours ce qu'il cherche vu son image Twitter, c'est Matt.
Salut Barberousse, comment ça va?
Pas trop mal, ça fait deux fois que je t'introduis dans une semaine, on va commencer par être intime, c'est bizarre.
Mais là j'ai un peu peur parce que passer de Panem à Quid Novi, la vraie version de Quid Novi, j'ai peur que la marche soit trop haute, mais bon, on va essayer de faire le mieux possible.
Mets tes genouillères, ça va aider. On a tous une pensée pour Péremptoire qui, dans sa Bretagne natale, n'a même presque plus internet. Je pense que les tuyaux seront dégelés en printemps, on le reverra peut-être un jour. Et on va en profiter pour faire un petit coucou à la chatroom. Alors, il y a qui est chez la... Alors, d'abord, quel est le challenge pseudo de ce soir, sachant que j'avais plus d'idée.
C'était poisson ou démon.
Alors, il y a qui avec nous ce soir?
Alors, nous avons Mademon Tools. Nous avons Saint-Ifrit de Lostins. Je sais pas.
C'était peut-être pas le meilleur challenge, je le reconnais. Il y a peut-être mieux. Mais...
Si, mais je suis désolé, mais le meilleur, c'est quand même Barbacuda.
Voilà, non, mais vous pouvez pas tester. Alors, il y a quoi d'autre, Matt?
Alors, il y a Armoziquiel le déchu, Azazrtof, Guest. Ah non, je vais pas lire les guests.
Non, c'est
Hugo 155 et Kenyptoterus.
Oh là.
Et aussi Wiwish.
Wiwish.
Lorraine, peut-être.
Ouais, mais c'est pas un poisson.
C'est peut-être un démon, oui, oui.
Un démon du gentil. On va enchaîner, je crois. Hein. Ce soir, nous parlerons du Louvre, de quelques flashs, on appelle plus ça les Félix, parce qu'après, il y avait trop de problèmes. Et puis, devant la vindicte populaire de mes co-animateurs, ils ont pas dit qu'il fallait changer de nom. De selfie d'une statue démoniaque, de la gueule de bois gratos et d'un robot même pas ninja. Et ensuite, ce sera au tour de Matt, et ouais, c'est pour ça qu'on a nos invités, ils font des dossiers à notre place, de nous parler d'un dossier sur...
Le Bloop.
Le Bloop, d'accord. Ça va être clair si...
Mais faut garder le truc vraiment mystérieux, tu sais, c'est un dossier plein de mystères.
Vraiment la fraîcheur absolue...
Je garde tout, je garde tout.
D'accord, bah garde tout. Bon, on attaque ?
Oui.
Yeah !
Les Telex. Une toge. Deux sandalettes. Trois bonnes raisons d'écouter les news. Les plus antiques de la podcastosphère. Et c'est Kélinette qui commence.
Alors, depuis l'année dernière, les possesseurs d'une 3DS pouvaient, lorsqu'ils allaient au Louvre, profiter d'un audio guide via leur console préférée. Comme ça marchait plutôt bien entre Nintendo et le musée, c'est donc naturellement que Nintendo a décidé de se faire un peu plus de thunes, enfin d'offrir cette expérience aux gens qui ne pouvaient pas aller au Louvre. Donc depuis le 27 novembre... pour la maudite somme de 19,99€ ou 25€ sur place, vous pouvez vous procurer la version améliorée de cette appli. Donc vous pourrez de votre canapé visiter virtuellement le musée, tourner autour de la représentation 3D de la Vénus de Milo ou admirer la Joconde. Au total, il y aura quand même 600 œuvres, 400 photos du musée et une trentaine d'heures de commentaires qui doivent être passionnants. Voilà. Il sera bien sûr possible d'aller au musée avec l'application puisque ça sert toujours d'audio guide.
Mais c'est une application pour téléphone portable ?
Non, pour 3DS.
Donc on va avoir des super œuvres sur un tout écran de merde en fait.
Oui, mais il y a la 3D.
Mais on est d'accord que la représentation 3D c'est d'une œuvre 2D, non ? À la base quand même. Un tableau ça reste 2D.
La Vénus de Milo c'est une statue ?
Ah oui, pardon. Moi je confonds direct
c'est
avec
bien.
C'est le côté culture, tu vois.
Non, ce qui est beau, c'est qu'il me le doute.
Oh ben bon. Il y a peut-être d'autres sculptures quand même, j'espère.
Oui, oui, il y a plusieurs. Il y a plusieurs sculptures, mais bon, il y a une vidéo. On mettra le lien, je pense, sur l'article. Il y a une vidéo où en fait, tu vois la Vénus de Milo, ben de face, genre en photo. Et là, il y a une espèce de représentation dégueulasse en 3D qui se fait, qui permet de tourner. C'est vraiment juste moche.
Et c'est sur la 3DS, ça fait mal aux yeux aussi. On est obligé de. T'as 25 euros l'application.
25 euros, ouais, au Louvre, parce que ce sera une version boîte. Sinon, c'est juste une version sur l'eShop en fait, à 20 euros.
Mon Dieu.
T'as des tarifs étudiants, des tarifs de groupe pour l'appli ou...
Non, je ne crois pas, non.
Et pas des tarifs de pigeons avec ?
Les tarifs de pigeons, mais c'est 25 euros sur place ou 19,99 sur le shop. Ouais. C'est ça.
Mon Dieu. Bon, tu passes à la suite ?
Ouais, je voulais enchaîner avec un flash sur The Hobbit. Le 13 décembre, le jour du lancement du film, donc du second épisode, Microsoft et Warner Bros. UK mettront en ligne des plans pour une imprimante 3D qui vous permettra de faire The Key of Erebor. Voilà.
Et faire quoi ?
The Key of Erebor.
J'ai rien compris.
De qui ? La clé d'Erebor. Oh là là.
Ah oui.
Oh là là. Un serial killer.
Non mais ça va quand même. Oh. T'as vu cet accent, non mais oh. Ah, donc en gros, on aura des plans pour imprimer ouais. Soi-même la clé.
C'est ça, t'auras des plans pour une imprimante 3D pour imprimer la clé.
Et ce sera payant, je parie.
Non, a priori, c'est gratuit. Euros, hein. 25 euros sur place ou 19,99
à emporter, mais d'accord.
C'est très 3D aujourd'hui.
Ouais.
Ah, c'est vraiment, c'est beaucoup trop 3D, je pense.
Ils sont pas frais.
Alors, c'est pas pour passer pour un vieux con, clin d'œil, mais je trouve que tout part en sucette en ce moment. La langue française, c'est vraiment n'importe quoi, je parle même pas des accords de liaison tout pourris. Eh bien, on n'est pas les seuls à avoir une langue qui débloque, rapport aux anglais qui font aussi n'importe quoi. Depuis août 2013, « selfie » est devenu le mot de l'année dans le dictionnaire anglais. Mais savez-vous ce qu'est un « selfie » ? Alors, rien à voir avec Favier. Hein.
Wouah, « selfie » Favier.
Enchaîne, c'est quoi un « selfie » ?
Je sais pas, moi. Pourquoi moi je devrais savoir ?
Je sais pas.
Moi je sais, c'est les photos ridicules que tu prends de toi dans un miroir ou carrément avec ton portable en te fixant toi-même.
Merci Matt, tu es gentiment devenu ridicule pour le bien du podcast. Je t'en remercie.
Bravo Barberousse, tu as réussi à faire une phrase.
Oui, c'est horrible. Je suis fatigué, je vous zut. Mais avec le problème de le selfie, c'est que d'une, on a l'air absolument ridicule, mais surtout, on a une grande question qui remonte à très très loin. De quand, à votre avis, date le premier selfie ?
Oh, à peu près au moment de l'apparition de la première Duckface.
Ah ouais, pas mal, ouais.
C'est pas mal, ouais. Donc au niveau de l'invention de Donald Duck, tout ça, ou même avant, à votre avis ?
Non, moi je pense que ça date... À partir du moment où l'adolescence existait, je pense que le selfie arrive à ce moment-là.
Je croyais que sur les murs de la grotte de Lascaux, on faisait des selfies déjà.
Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, sur les murs de la grotte de Lascaux, il y a un duckface magnifique.
Je veux même pas chercher à comprendre. Je sais pas pourquoi.
Musica, elle pense que c'est le 19e.
Eh ben, elle a plutôt bon. Parce qu'en fait, le tout premier serait en fait un daguerreotype du chimiste américain Robert Cornelius en 1839. Bon, il était pas super.
Un daguerre quoi ?
Un daguerreotype, c'était juste avant la photographie. En fait, c'était une plaque de verre qui était superposée entre autres de celle d'argent et qui était laissée imprimer à la lumière pour représenter en gros c'est vraiment l'ancêtre de la photo.
Ah, moi je connaissais le daguerring mais ça n'a aucun rapport, les gens peuvent chercher sur YouTube.
Non, 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 ils ne cherchent pas sur YouTube le daguerring, s'il te plaît. Nous sommes un podcast honnête, au moins jusqu'au triple X.
Oui, mais tu comprends, j'essaye de rapprocher à des trucs que je connais, et là, effectivement, ça n'a aucun rapport.
Non, là, c'est dégueulasse, là, quand même. Hein. Donc, on a trouvé ce qui serait le tout premier selfie en 1839, et on a même retrouvé la trace d'un cliché de... Alors, attention, Anastasia Nikolaïevna. Nikolaïevna, ça doit dire quelque chose, ça, Matt. Une princesse russe en 1913.
Ah, excellent. L'égocentrisme
est presque le propre de l'humain, quels que soient les âges. Alors, est-ce qu'on pouvait vraiment faire un selfie en peinture ? Je sais pas, mais ça se tente. Est-ce que là, je compte
Les autoportraits ? Ben non, c'est pas un autoportrait.
Oui,
enfin,
mais
a priori.
Ce serait après Léonard, juste comme ça, pour ce qu'elle souriait, en fait. Est-ce que la Joconde aurait pu faire une duck face ? Je sais pas.
La Joconde, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Avec ma culture, c'est ça.
Mon Dieu.
La Joconde en duck face.
Mais il n'y avait même pas de filtre Instagram, c'est même pas un vrai selfie, qu'est-ce que tu racontes ?
Non, mais pas Instagram, quand même, s'il te plaît. Non, on va pas faire de la foot porn. Non, quand même pas.
Non.
Bon, et moi je vais vous faire un petit
Alors,
flash.
Alors, on nous dit sinon selfie, c'est péremptoire. Hein. Il nous dit sinon selfie, c'est un personnage de FF8. Voilà, je tenais à le souligner.
D'accord.
C'était important.
Je crois que c'était assez important, ouais. Mais on sait jamais. Alors, je vais vous faire un petit flash en vitesse. Si je vous parle d'un aliment qui est proche du crack, un aliment qui ne se mange dignement qu'à la cuillère à soupe, un aliment bourré de sucre qui devrait être interdit par la Convention de Genève et Dieu lui-même,
vous pensez Nutella.
À quoi ? Le Nutella, voilà. Merci. Je comprends tellement bien. C'est incroyable.
J'ai trouvé quand t'as dit cuillère.
D'accord. Donc, c'est ce lundi 2 décembre qu'un bar à Nutella a été ouvert dans le complexe du chef Mario Batali. À Chicago. Alors en gros, c'est le terme, hein, en gros, que vous pouvez manger du Nutella sous toutes ses formes et surtout sur absolument n'importe quoi. Donc aucune nouvelle d'un tel bar en France, mais il ne nous reste plus qu'à tourner vers les baraques à frites et autres chouchous chelous dans les foires et autres stands de crêpes pour consommer votre dose de Nutella. Donc bientôt en France, un bar à Nutella. Je crois que j'avais déjà vu des bars à Gundas aussi, ce qui devrait être interdit par la loi. C'est horrible. Pourquoi ils nous font ça en fait ? Je sais pas.
Moi j'ai une petite idée, c'est un rapport avec l'argent.
Ouais, je crois aussi.
Si, ils sont frais.
Eh, c'est Matt, c'est à toi.
Alors oui, je vais vous parler d'une statue maudite qui bouge toute seule. Alors, on n'est pas du tout dans le trip genre statue qui bouge à la Felindra tête de tigre. Là, on est vraiment sur une statue qui bouge toute seule, sans intervention directe d'une douce créature à la peau d'ébène. La vidéo avait fait le tour du monde cet été, vous l'avez probablement vu. Vous aussi, vous avez plissé les yeux pour tenter de détecter l'indétectable truc qui faisait tout le mystère de cette statue, qui, à mesure que la journée s'avance, effectuait une rotation à presque 360 degrés, et sans glaçon sur elle-même. La vidéo montre bien cette statue égyptienne de 4000 ans, de 25 cm, rotée petit à petit tout au long de la journée dans ce musée
rotée.
Tranquille. Bah oui, faire une rotation.
Non. Continue. Fais comme
faire
si t'étais pas
rotation.
Là.
D'accord.
T'as l'esprit mal placé, Barbarousse. Donc elle rote petit à petit tout au long de la journée dans ce musée tranquille de Manchester. Le truc encore plus chelou, c'est que la statue en question s'arrête de bouger la nuit. Alors, en même temps, la nuit au musée, c'est très très nul. Alors quoi ? Ben Stiller est là,
en fait.
Oui. Ben Stiller est là. Alors quoi ? La momie coincée à l'intérieur avait la bougeotte ? Un visiteur malicieux s'amuse-t-il à la faire tourner petit à petit ? Eh bien non, c'est une chaîne britannique qui a mis à jour son secret. En fait, c'est simplement qu'en face du musée, l'axe routier est très fréquenté, notamment par les bus, et la statue est la seule parmi son voisinage à posséder un cercle concave. C'est ce détail qui la rend plus sensible aux vibrations que les autres et lui fait tourner la tête en journée, nous explique Steve Goslin, spécialiste des vibrations. Chez qui j'ai pris rendez-vous d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que j'entends ta voix, Barberousse.
Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là en fait ?
Vous laisser ? Non ?
Non, c'est bon, non. Il faisait déjà des trucs.
Je crois que c'est la proximité là. Ça m'électrise.
On peut plus, oui. Est-ce qu'ils ont demandé à Jamie d'aller sur place pour voir comment ça se passait ? Ou alors ils ont demandé à l'équipe de Mythbusters ? C'est juste une pauvre chaîne de télé anglaise qui a trouvé le truc en fait ?
Ouais, non, Jamie, il fait que des trucs en solo maintenant, le pauvre.
Mon Dieu.
C'était un des grands drames de l'été, ça. Cette séparation.
Oui. Finalement, ça s'est pas arrêté, c'est pas sorcier.
Ça finit en solo.
Ils sont pas frais.
Ils sont pas frais, ouais. Mais bon, en cette période de fin d'année, les fêtes vont commencer, ça va faire mal au foie et autre cuir chevelu. Il était temps d'innover un peu dans la picole. Vous avez entendu parler du binge drinking ou turbomurge, ça vient de moi. Dont le but est de se bourrer la gueule le plus vite possible et qui fait le ravissement des oiseufs et autres rubriques insolites du type ivre virgule. Vous connaissez le ivre virgule, c'est absolument mythique ça. Les journalistes n'auront pas d'inspiration. Eh bien le neuropsychopharmacologue, ça vaut 44 points au Scrabble, britannique David Nutt, assure que son substitut à l'alcool lancerait une révolution dans le monde de la santé. Alors soit il bluffe, soit c'est un génie, mais bon, je vous laisse juger. Hein. Le principe de son substitut est de cibler les neurotransmetteurs spécifiques ciblés par l'alcool pour avoir l'effet de l'ivresse sans les effets secondaires indésirables, puisqu'il suffirait de prendre une simple pilule pour revenir à la normale. C'est dingue, n'empêche. Ça vous tente, ça ?
Oui, mais où est l'intérêt ?
De pas avoir la gueule de bois ?
Ah.
Moi, je le vois très bien. Hein.
Pouvoir conduire pour rentrer chez toi.
Par exemple. Donc il a testé son propre produit sur lui-même. Alors je cite, hein. « Je me suis senti détendu et dans une ivresse cotonneuse pendant environ une heure. Quelques minutes après, je donnais une conférence sans aucun problème. Avec une pilule magique. » Alors apparemment, il est en train d'essayer de lancer sa formule à droite à gauche, mais bizarrement, tous les fabricants d'alcool sont en train de freiner des deux pieds. C'est assez étrange. Mais apparemment, Apparemment, ça forme une marche. Donc, on pourrait se boire la gueule et avoir l'air complètement pété. Et deux minutes après, avec une petite pilule, revenir à l'état normal. Ça arrivera en France, à votre avis, un jour ? Le pic du vin, tout ça.
Moi, je pense que tout finit par arriver un jour ou l'autre, donc oui.
Même ça va poser plein de problèmes légaux, déjà, en plus.
Bah, comment ça ?
Bah, si tu fais le test d'alcoolémie et que t'as une haleine super chargée, mais que t'as pas le...
Peut-être que ça donne pas la haleine.
Eh bah, ils te fileront au moins une pilule. Et hop.
C'est ouais, bien, faudra dépister.
Dépister quoi ? De toute façon, avec une pilule, t'es plus bourré. C'est vachement bien. C'est le futur.
C'est le futur, oui. C'est le futur des mecs bourrés.
Ça me fait un peu penser au modulateur d'humeur qu'il y a dans Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?
Modulateur d'humeur, alors
oui, ils ont un modulateur d'humeur où ils choisissent aujourd'hui je veux être triste, aujourd'hui je veux être content, aujourd'hui je veux être fatigué.
Et si on veut être content, c'est simple, il suffit d'écouter Quid Novi ?
Oui, c'est ça.
Voilà, je pense. Et si on veut être vraiment très très content, on écoute les Telex de Cadinette.
Ils sont pas frais.
Transition, oui, tout ça.
Oh, magnifique. En plus, tu peux pas avoir plus raison que ça parce que j'ai deux bonnes nouvelles.
Vas-y, la première.
Alors, la première bonne nouvelle, c'est que si votre bon vieux Tamagotchi a rendu l'âme après 17 ans de bon et loyaux service, puisque c'est quand même né en 1996, Namco Bandai a décidé d'en sortir des nouveaux début 2014. Les bébêtes seront un peu plus kawaii, le Tamagotchi aussi. Par contre, l'écran restera en noir et blanc et moche. Mais c'est pas grave. Mon Dieu. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, eh ben, sachez qu'on a enfin inventé le robot tortue.
Ah, mais il n'est pas ninja.
Non, il n'est pas ninja, c'est un robot tortue. Peut-être que plus tard, il y aura des robots tortues ninja, je sais pas. Alors en fait, le robot tortue, eh ben, c'est un robot qui est basé sur les tortues de mer, puisqu'après des millions d'années d'évolution, les tortues de mer sont devenues de vrais petits bijoux d'agilité. Elles peuvent nager sans se décoiffer, slalomer entre les récifs de corail... Et grâce à leur ventre plat, elles se faufilent dans les endroits les plus étroits. Et je veux aucun jeu de mots sur le mot étroit, merci Barbaros.
Non, je pensais à ventre plat, mais c'est un truc à base de Playtex et tout, c'était compliqué.
Ouais, non, donc je ne veux aucun jeu de mots, merci Barbaros. En fait, c'est des chercheurs en Estonie qui se sont rendus compte de toutes les qualités que pouvaient avoir les tortues de mer. Et ils ont décidé de s'en inspirer et de créer le robot tortue, qui en fait leur permettra d'avoir une meilleure connaissance des fonds marins. Et de faire surtout des photos, a priori, qui seront quand même magnifiques. Voilà, il y a une vidéo aussi qu'on mettra, pareil, à disposition dans les liens sur l'épisode, et qui montre en fait la tortue se déplacer dans l'eau, et franchement, c'est quand même ultra impressionnant.
Alors, Estée Fritz The Lostin nous demande, il y a des tortues de mer en Estonie ? C'est une bonne question.
Est-ce qu'il y a la mer en Estonie
déjà, est-ce
moi,
qu'il y a la mer,
ouais,
déjà.
Je me demande. Ou alors ils ont pris des tortues russes et c'est pas la même chose, je crois. Mais
c'est quelle taille de tortue ? Est-ce que tu peux y jouer avec dans ton bain ou...
Ben, ça dépend de la taille de ton bain, j'ai envie de dire. Non, mais une tortue de mer, a priori, je sais pas, ça fait à peu près comme ça.
Ah, d'accord. Oui, d'accord, je vois.
Est-ce qu'ils font pas en plus petit pour aller chercher l'éponge toute dégueulasse qui est au fond du bac pour faire la vaisselle ?
Bah, il faut prendre un bébé tortue.
Ils font pas des robots bébés tortues, pas ninja, pour aller
ils
chercher...
Ils font pas des robots bébés tortues, c'est les robots tortues qui se reproduisent.
Ah, mais ça commence à être très compliqué, là.
Non, mais franchement, c'est vraiment, vraiment impressionnant.
Alors, Musicarp nous dit que, eh oui, l'Estonie a un accès à la mer. Ouais, mais c'est la mer du Nord, je sais pas, c'est beaucoup de tortues, ça caille.
La mer noire.
C'est la mer noire.
Oh là là.
On va enchaîner, je crois.
Ouais, non, c'est... Ouais, mais bon. Mais d'ailleurs, les Tamagotchi, c'est bizarre. Il n'y avait pas des applications pour portables qui faisaient...
Ouais, mais c'est tout pourri.
Ils veulent nous revendre le petit machin horrible en porte-clés.
Non, mais attends, mais moi, ça sort en janvier. Je l'achète en janvier, hein.
Quoi ?
Ah ouais, mais je l'achète direct.
Pourquoi ils sortent pas directement une appli Tamagotchi ?
Mais parce que c'est mieux. Ouais.
C'est l'objet, c'est ça. C'est...
Bah oui, c'est l'objet. C'est le plaisir de casser les boutons, d'être obligé d'appuyer avec une épingle.
Un petit écran de 16 sur 16 tout moche avec 3 pixels
ouais.
Qui font ton petit machin. C'est horrible.
En gris et noir. Et tout ce qu'ils font, c'est bouger le nez de côté pour te faire croire que le truc, il tourne sur lui-même.
Ça me fait penser au Furby quand même, dans le genre truc
artificiel.
Que
le Furby est vraiment démoniaque parce que ça régit à la voix, ça ouvre les yeux, c'est une horreur.
Je veux bien un Furby pire. Aussi. Hein.
Ouais, mais non.
C'est bientôt Noël, alors je...
J'ai demandé un Furby pour Noël. 90s Powa, mon Dieu, non. Tu peux te passer une peluche troll avec les cheveux tout bizarres tout violet, tout rose.
Ah, c'était trop marrant, ça. Mais c'était pas des peluches, c'était des poupées. Mais
des
ouais,
poupées,
c'était vachement
oui,
bien.
Voilà, ouais, oui. Non, mais t'es dans un trip rétro en ce moment, c'est bizarre.
Non, j'ai pas grandi.
Ah, on me dit que M. la Maudite en a un. À quoi ? Encore un troll, un machin, ou un Furby, ou... Oh mon Dieu, non, non, non. Deux dans l'équipe qui ont des trucs comme ça ? Kenny est un plus petit...
Non. On ne lit pas.
Non. Bon, on va rester sur les trucs marins, on va éviter les choses qui vibrent, et puis on va passer au dossier de Matt. Matt, est-ce que tu es prêt ?
Prêt.
C'est la rubrique culturelle de Quid Novi.
C'était magnifique cette petite musique, ça va très bien, c'est un très beau lancement. Alors là, moi je vais vous parler du bloop. En effet, depuis la nuit des temps, la recherche des sons d'origine inconnue a agité les plus vives préoccupations de l'homme. Cro-Magnon, déjà dans sa cave, en venait parfois à se demander « qui c'est qu'a pété ?» Bon, après ce lancement pourri, on passe au vif du dossier. Du coup, si vous le voulez bien, le bloop, c'est le nom donné à un son d'ultra basse fréquence venu des profondeurs marines, détecté à plusieurs reprises durant l'été 1997. Et quoi de mieux pour décrire un son que l'entendre ? Vas-y, DJ Barberousse, balance la sauce.
Alors, je tiens d'abord à dire que ce lancement sera effacé au montage. Enfin, je vais essayer quand même. C'est une honte. On devrait même pas pouvoir... Non.
J'assume.
Je tiens à dire que je n'étais pas prévenu avant.
Voilà.
Voilà.
Magnifique.
Et c'était la fin du dossier. Merci, Matt.
C'était super
c'était
impressionnant.
Une vie le plus rapide du monde.
Ah bah, record battu.
Record battu. Pardon.
Alors c'est un son qui a été détecté au large de la côte sud-ouest de l'Amérique du Sud par un système en fait à la base destiné au repérage des sous-marins soviétiques, mais qu'on utilise maintenant pour suivre l'activité sismique sous-marine et les mouvements des populations de mammifères marins. Car oui, les baleines sont des oiseaux migrateurs comme les autres. Alors il faut vraiment se rendre compte que c'est un son assez colossal, puisqu'il a été accéléré 16 fois dans l'enregistrement qu'on vient d'écouter, et il pouvait être entendu sur une portée de plus de 5000 km. Alors en plus de ça, il était différent des sons connus jusque-là, puisqu'il était notamment beaucoup plus long et beaucoup plus intense que le cri le plus retentissant enregistré venant d'un animal connu, à savoir la baleine bleue, qui est déjà un machin énorme de plus de 30 mètres de longueur et de 170 tonnes. Donc bon, c'est pas le premier son qu'on ait capté et qu'on ne soit pas parvenu à identifier. Cependant, selon les chercheurs, c'est bien celui qui ressemble le plus à un son qui pourrait avoir été produit par un animal. Voilà pourquoi tant d'hypothèses se sont développées autour de ce fameux bloop. On va donc faire le tour ensemble de ces fameuses hypothèses.
Alors je te coupe juste deux secondes. Onof Sferatu nous dit c'est à la poursuite d'Octobre Rouge en fait. Et moi je dis que c'est à la poursuite d'Octobre Bloop. Mais tu peux y aller.
Alors oui, bah justement, je vais évoquer cette théorie en premier. La première théorie, c'est qu'il s'agissait d'un sous-marin nucléaire. En effet, lorsqu'un sous-marin veut s'immerger ou remonter à la surface, il remplit ou purge ses ballasts, et il se trouve que le temps de remplissage ou de purge des ballasts peut durer entre 30 secondes et 1 minute, ce qui matcherait avec la durée du bloop. Donc ça, c'est dit. Théoriquement, le bloop pourrait également avoir été produit par une machine. La fréquence en elle-même peut être reproduite, mais c'est le volume sonore là qui poserait problème, puisque techniquement, il aurait fallu des moyens gigantesques pour refaire le son à une telle échelle, à une telle puissance. Donc la première thèse la plus plausible, entre guillemets, c'était que ce son ait été émis par une baleine bleue, qui aurait été gigantesque, même au sein de son espèce, mais qui aurait bénéficié de conditions particulièrement favorables, car portée par des courants marins d'air chaud, qui auraient joué un grand rôle dans la propagation du son sur une grande distance. Une autre théorie, c'est l'hypothèse sismique, qui vient également tout de suite en tête. Cependant, elle a été vite écartée, car au vu de la nature du son, et surtout du fait qu'il ait été répété plusieurs fois, quasiment à l'identique, c'était difficilement plausible. De plus, aucune faille ni activité sismique sous-marine n'était connue des scientifiques dans la région. Voilà, donc une autre théorie suivait la piste d'un bruit d'origine animale. Donc c'est assez étonnant parce qu'en fait les scientifiques ont envisagé que ce son ait été produit par un grand nombre de créatures émettant un son de façon synchronisée en fait. Par exemple une chorale de baleines.
C'est tellement probable. Original, ça.
C'est effectivement original, mais c'est plausible à la limite, hein, pourquoi pas. La dernière hypothèse qui va nous intéresser bien plus encore ce soir, c'est que ce son pourrait avoir été émis par un énorme et encore non découvert bestiau. Plusieurs suspects possibles, une espèce encore inconnue de calamar géant, pourquoi pas une pieuvre, ou un poisson, une baleine encore plus grande que la baleine bleue. Bon, à cela, il y a un scientifique du nom de professeur Rabajois qui a répondu que sur tous les céphalopodes connus, on n'avait jamais vu de membrane gazeuse nécessaire pour produire ce genre de son, et que si ça avait été un cétacé, il aurait bien dû faire surface un jour, ne serait-ce que pour respirer, et que donc on l'aurait repéré s'il s'agissait d'un big one.
Alors, Onof Siratu nous propose une moule géante. Non. Je cautionne pas.
Non, moi non plus.
Je pense que c'est un poisson fougou qui a explosé.
Ah oui, c'est vrai. Il essaie de se manger lui-même et puis...
Ou alors que t'es quelqu'un qui était sous la mer et qui avait Tiny Chat.
Aussi, oui. Plouk. C'est une explosion de foufoud, mais c'était seulement chez les nuls, donc ça marche pas.
D'accord, j'enchaîne. Alors, ok mec, mais si la fameuse bestiole n'était ni un céphalopode, ni un cétacé, mais Cthulhu, car oui, il se trouve qu'une première estimation de la localisation de l'origine du bloop indique que celui-ci se trouve à moins de 2000 km, ce qui n'est quasiment rien dans l'océan Pacifique, de la cité fictive de Rlie. Alors, pour ceux qui sont perdus, on va faire un petit point Cthulhu. Je sais pas pour vous, mais c'est peut-être utile pour certains dans la chatroom.
Ouais, Cthulhu, tant qu'on y est, vas-y.
Voilà. Donc Cthulhu, c'est un grand ancien, l'équivalent d'une divinité extraterrestre millénaire dans le mythe créé par Lovecraft. Alors, tout simplement, Lovecraft, c'était un grand écrivain d'horreur du début 19e, dont personne n'aurait apprécié, je pense, partager le cerveau, tant les visions terrifiantes habitent ses œuvres. Physiquement, Cthulhu, c'est assez sympa, hein. C'est un monstre humanoïde gigantesque. Il possède une tête de sèche, ainsi que des tentacules de pieuvre et des ailes semblables à celles d'un dragon. Il aurait été banni par des dieux encore plus anciens que lui, hein, pour vous dire, de la constellation Bételgeuse. Aucun rapport avec Beetlejuice, hein. J'aimerais que vous suiviez un minimum.
Mais on a
Non mais je te connais.
Oui mais moi je l'ai pensé hein.
Et toi aussi Kenninette. Et donc il dort désormais dans le Pacifique Sud, dans la cité sous-marine de Rlie, donc bien évidemment fictive, en attendant l'heure de son retour.
Oui, parce que tout le monde sait que le dormeur doit se réveiller.
C'est ça, ce n'est pas mort ce qui a jamais dort d'ailleurs. Et il est l'objet d'un culte par ses adorateurs priant pour son réveil à travers des litanies telles que, alors attention, Fnglgli Meglafa, Cthulhu, Rlie, Fganagl, Fnagsn.
Soit. En fait, c'est une feinte, faut le dire ça sous l'eau en fait.
Voilà, c'est ça. Mais en version française, ça donne dans sa demeure de Rlie la morte, Cthulhu attend en rêvant. Voilà, c'est classe. Hein.
Wow.
Vous pouvez maintenant réécouter le bloop en imaginant qu'il s'agit d'une divinité colossale endormie dans le Pacifique Sud, attendant dans un sommeil visiblement agité de revenir sur la terre ferme pour y semer chaos, terreur et désolation. Tu peux remettre le bloop ?
Tu m'as pas demandé de le remettre une deuxième fois et la deuxième fois
c'était pas prévu. Ah d'accord.
On entend bien la tentacule, là.
Franchement, ouais, ça marche plutôt pas mal, non ? Franchement, c'est séduisant comme théorie.
Ça laisse imaginer beaucoup de choses, mais j'aimerais plutôt qu'il reste dormir, le Cthulhu. Il y a
D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ces rumeurs qui ont inspiré l'éblouissant J.J. Abrams pour le film Cloverfield.
Oh non.
Je crois que le fait que tu mets éblouissant et J.J. Abrams dans la même phrase a un peu dérouté Barberousse.
Je crois que c'est ça qu'il a perdu, oui. Mais est-ce que vous avez vu Cloverfield ?
Non.
Oui.
Alors, c'est un film complètement tourné à la première personne dans la série des found footage. Littéralement, c'est un enregistrement qu'on a retrouvé et qu'on consulte tel quel, dans lequel une étrange et gigantesque créature marine débarque dans Manhattan et fout joyeusement le bordel. Il y a une sacrée inspiration du mythe de Cthulhu, mais la bestiole, au final, n'y ressemble pas du tout. En tout cas, le film est très très bon et je vous le conseille très fortement. Moi, j'ai adoré.
D'accord.
C'est ton avis, ça ne, n'engage que toi.
Ça, t'as pas aimé, toi.
Plutôt
t'as eu
moyen,
un peu la gerbe, ouais. Peut-être.
Non, c'est,
non,
j'ai
même
franchement
pas.
Moyennement accroché au film.
Ah, c'est, moi, c'est peut-être le truc de Cthulhu, j'ai peut-être accroché.
Je voyais pas du tout Cthulhu dans ce film-là, c'est juste une bestiole qui est à New York, et puis tu vois un caméscope de vacances d'un mec. Ouais.
Bon.
C'est un peu original, je veux bien, mais bon, depuis quand on fait des critiques ciné dans Quid Novi,
Ah non, mais c'était au passage, c'était marrant que ça ait inspiré J.J. Abrams, ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez
Satan
de cette théorie Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie selon laquelle le bloop vient des rêves, bon, érotiques ou non, de Cthulhu?
Je pense que c'est la meilleure. Celle qui
les rêves érotiques de Cthulhu, déjà qu'ils veulent des tentacules, j'espère qu'ils ne regrettent pas du hentai, parce que là, il va être vraiment très très content. Alors, à moins que ce soit lui qui a inventé le hentai, et là, ça devient très très compliqué quand même.
C'est très possible, il y a des adorateurs un peu partout.
C'est ce qui m'inquiète le plus, en fait.
Et vous pensez que cette théorie, elle a pu être appuyée scientifiquement?
J'ai peur que la réponse soit oui.
Allez, je suis trop en ouf, je dis oui.
Ouais.
Eh bien non, le twist est tout pourri parce que, bah écoutez, science is a bitch. Des nouvelles estimations ont considérablement écarté le son de la demeure de Rillet. Il se trouve que le son tient finalement son origine dans l'océan Austral et plus du tout dans le Pacifique Sud.
C'est parce que c'était planté sur Google Maps.
La réponse officielle des scientifiques, beaucoup moins sexy que toutes les hypothèses évoquées, puisqu'il s'agirait tout bêtement d'un gigantesque tremblement de glace.
Un tremblement de glace.
C'est comme un tremblement de terre, mais avec de la glace.
Mais avec de la glace, voilà, c'est ça, entre un ou deux icebergs, ou sur un seul iceberg qui se désagrège, en fait. Ça a été mis en lumière grâce à l'observation d'un iceberg qui se désintégrait au large de la Géorgie du Sud en 2008. Là, ils ont la mer, tu vois. Là, on le sait. C'est pas comme l'Estonie où on a un doute. Et donc, les deux phénomènes ont été mis en relation. Et en rapprochant les deux, le son a trouvé là son explication. L'affaire est classée. Du moins, jusqu'à ce que Cthulhu se réveille et demande la paternité du bloop.
Le dormeur doit se réveiller.
Moi, il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Et je suis désolée de poser la question. Mais en même temps, c'est ce qu'on attend de moi. Il n'y a aucune théorie qui implique quelconque gaz qui sort d'un quelconque corps. Non, mais je sais pas. Je demande parce que franchement...
C'est pas vraiment la chose que... Non. Mais le tremblement de terre sous-marin avec un volcan en explosion qui balance une bulle de gaz, là, ça aurait pu être... pourquoi pas?
Ouais, mais comme il n'y a aucune activité sismique dans le coin, du coup, non, quoi.
Bah, c'était un fuyard, quoi. C'était pas un silo, c'était pas un... Voilà, là, c'est ce qu'on attend de moi. Tu vois, par exemple, ça marche aussi.
Oui, ça a fait bloop.
Ça a fait bloop, voilà. Donc, tu as fini ton dossier?
Eh oui, j'ai fini mon dossier. Malheureusement, ça n'a pas eu la fin espérée. Et les réponses apportées par la science nous déçoivent parfois quelque peu.
C'est vrai que c'est très décevant. Mais que la science reconnaisse Cthulhu, j'aurais été un peu plus déçu aussi. Parce que j'aimerais bien quand même finir les jeux que j'ai en attente sur Steam avant.
Il y a quand même beaucoup de personnes qui se plaignent sur le chat et qui disent que Cthulhu n'est absolument pas fictif.
Ah ah! Ce sont des adorateurs. Est-ce qu'ils t'ont répondu Cthulhu, Tagne, Rillet, je sais pas quoi, là
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il y en a même un. Alors, il y a quand même Saint-Ifrit qui dit quand même bloup, 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 bloup.
Ah, d'accord. Ouais. C'est encore un des adorateurs. C'est un homme poisson adorateur.
Je pense.
Mais n'empêche, j'ai été surpris de trouver des vidéos de mecs qui s'amusent à prononcer la phrase que j'ai essayé d'éructer difficilement. C'est quand même des mecs qui sont à fond et qui te disent « Ouais, regarde, je sais trop bien la prononcer, quoi. »
Ah, ça y est, ils sont unanimes dans la chatroom. Cthulhu n'est pas un mythe, Cthulhu n'est pas un mythe.
Mais me regarde, donc, Dark Loli. Il est dark,
oui,
on sait très
Loli,
bien qu'il
oui,
est.
Il est dark.
Bon, Randall Flagg, bon, il est gaucher.
Non, il est gaucher.
Si,
il est gaucher. Et en plus, il est
daltonien. Oui, donc bon, c'est un... Tu t'attends à quoi?
Deux fois de plus, quoi. Mais franchement, oui, non, moi, je sais que c'est on a la chatroom qu'on mérite. C'est peut-être ça le problème, d'ailleurs.
Certes.
Ben, merci, Matt, pour ce dossier.
Oui, merci,
et ben, ce
Matt.
Sera le Queen Novi le plus rapide du monde. Et ben, c'est pas mal du tout. J'aurais un peu moins de montage comme ça. Je le note quoi, Randall Flagg, tu le notes? Oui, non, oui. Non, on se moque de toi, Randall Flagg.
Non,
Randall Flagg, il avait commencé à dessiner un Cthulhu qui était trop magnifique et il a arrêté parce qu'il a mal à la main.
Non mais franchement,
oh,
en
pauvre.
Plus d'être gaucher et de pas voir les couleurs, le mec il est rancunier quoi aussi, sérieusement.
Non mais il faut au moins qu'il ait une qualité, il sait dessiner, c'est déjà ça. Bon, il sait pas colorier, c'est tout quoi, mais bon,
c'est pas moi qui l'ai dit.
Bon, je crois qu'on va arrêter là cet épisode. Il est vraiment temps. Parce que ça devient vraiment très compliqué à ce moment-là.
C'est marrant, comme en une demi-heure, on peut faire un concentré comme ça. De...
Gros concentré, ça tombe bien, moi je suis fatigué.
Tu vas pouvoir te coucher beaucoup plus tôt, Barbarousse.
Ouais, beaucoup plus tôt. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Skininette, tu peux faire la page Facebook.
Bientôt.
Bon, renseigne-toi, je fais le reste.
Facebook.com/quidnovi.
Non, c'est pas ça. Recherche encore, et puis moi je fais la suite.
D'accord.
En vous pouvez nous retrouver sur quidnovipdc.com. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter @quidnovipdc. Vous pouvez aussi me retrouver avec Matt dans un petit truc qu'on a enregistré lundi. C'était quoi, Matt?
Ah, c'était Panem, l'épisode 2. Avec Baraka Geek et le duel.
Le duel. Je vous dirai pas qui a gagné. Le duel.
Je ne vous dirai pas que Barbarousse a perdu. Panem, c'est un jeu un peu tordu. Un quiz sur les œuvres culturelles, en fait. Qu'on anime tous les deux.
Oui, qu'on anime tous les deux, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas.
Essaie de partager les responsabilités, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est peut-être plus ça, en fait. Calinette, tu as la page Facebook?
Oui, www.facebook.com/quidnovipodcast.
Ah, merci.
J'étais presque, hein, ça va.
Oui, mais faut être correct jusqu'au bout quand même. Mince. Bon. Ah bah malheureusement, je te préviens, Kylian, je fais pas l'accent. Hein.
Non, mais non, c'est bon. Les 5 informations indispensables sur un sujet passionnant. Ce soir, les liaisons dangereuses. La liaison est un type de sandhi externe. En français, elle consiste en l'insertion, entre un mot à finale vocalique et un mot à initiale vocalique, d'une consonne qui n'apparaît pas lorsque ces deux mots sont proférés isolément. On considère souvent la liaison, ainsi que l'élision, comme une méthode de résolution euphonique des hiatus, suivant en cela une opinion émise au XVIIe siècle déjà par des théoriciens du vers classique. À la différence des consonnes parfois dites FL-cystiques, la consonne de liaison est conditionnée par l'étymologie et donc l'histoire de la langue. C'est une consonne finale ancienne qui s'est amuie mais qui est susceptible de se maintenir devant une voyelle initiale. Une liaison peut être interdite dans plusieurs cas, par exemple devant un mot débutant par un H aspiré, où l'hiatus ainsi que l'absence d'élision et d'enchaînement sont ici obligatoires dans la langue nommée. Dans les registres courants à familier, ce phénomène est appelé disjonction, et est souvent omis, soit par ignorance de l'usage, soit par la plaisanterie. C'est la fin des haricots. Hilarant. Au contraire, certaines liaisons sont obligatoires. Par exemple, le Q de 5 se transforme aisément en QZ, uniquement lorsqu'il est suivi du mot information. Par exemple,
les 5 informations indispensables.
Voilà. C'était les 3 plus 2 informations indispensables sur un sujet passionnant.
Les 3 plus 2.
Ça fait 5.
Ah d'accord.
Je me suis encore fait avoir. Hein.
Mais c'est vrai que t'as dit plusieurs fois par exemple. J'ai dit non, je le mets. Non, je le mets pas.
C'est pas de ma faute, c'est Wikipédia qui dit 5 fois par exemple.
Mais t'es pas obligé de copier-coller, tu peux adapter.
Bah non, je comprends rien.
Bah non, c'est rien que le copier-coller, il lui a pris 6 minutes. C'est ça que t'as
pas comprends rien. J'ai juste regardé où il y avait des points et j'ai dit tiens, ça doit être une phrase.
Ah, j'ai rien compris non plus.
Je pense que c'est le but, mais...
C'est fait exprès.